Mai 2019.
C'est le prix de l'essence qui avait allumé la mèche de la contestation des gilets jaunes en novembre. Aujourd'hui, alors que les prix à la pompe ont retrouvé leur haut niveau, le débat est relancé sur les moyens de les faire baisser.
C'est la question du chèque déplacement.
François de Rugy.
Le chèque déplacement sur le modèle du chèque déjeuner. Il est actuellement en discussion.
Ministre de la Transition écologique.
Et moi, je souhaite que l'on puisse aboutir d'ici le mois de juin pour que dans toutes les entreprises de France, les salariés puissent avoir un chèque déplacement. Et l'État s'engagera là à ce que ce dispositif ne fasse pas l'objet de cotisations sociales ou de fiscalité, ce qui permet aux entreprises de le payer à moindre coût.
Un chèque déplacement obligatoire. Bonne idée.
Chèque déplacement, bonne idée.
François Asselin.
Obligatoire, mauvaise idée.
Président de la CPME.
Lorsque vous êtes entrepreneur et qu'on vous impose, entre guillemets, ce que vous devez donner ou pas à vos salariés, il y a un moment, effectivement, où la liberté d'entreprise, eh bien, se retrouve quelque part écornée. Vous n'êtes plus le chef de votre entreprise.
Les trajets domicile-travail vont peut-être bénéficier d'une prime.
C'est en effet un dispositif qui est prévu dans la loi sur la mobilité, hein, cette prime défiscalisée à vélo et en covoiturage.
Certains ministres veulent rendre le versement de la prime obligatoire dans toutes les entreprises, dans toutes les régions et surtout à tous les moyens de transport.
Dans des entreprises où il y a des gens qui se déplacent en transport commun.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Et des salariés qui se déplacent en voiture.
Président du MEDEF.
Comment on fait ? Est-ce qu'on donne la prime à tout le monde ? Ce qui serait totalement injuste, qu'on la donne que à ceux qui se déplacent en voiture. Mais à ce moment-là, si on les encourage à se déplacer en voiture, qu'on veut plutôt faire l'inverse. Donc je crois qu'il faut laisser les entrepreneurs et les salariés négocier sur une base volontaire.
Faut être sérieux.
Laurent Berger.
Chacun, dans la situation très grave que nous traversons, doit assumer sa part de responsabilité, le patronat également.
Secrétaire général de la CFDT.
La CFDT, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut une négociation dans les entreprises sur les accords de mobilité pour voir comment on peut développer au maximum les transports collectifs, les transports propres, et qu'il faut, en l'absence d'accord, le versement de cette prime à chaque salarié qui soit obligatoire.
On est dans une politique de totale gribouille.
Valérie Pécresse.
Où aujourd'hui, on va prélever des milliards d'euros sur les Français en taxes sur les carburants.
Présidente LR de la région Île-de-France.
Et on demande aux régions de reverser les chèques. Mais les chèques qu'on va reverser, on les paye aussi avec l'argent du contribuable. Donc en réalité, si nous faisons des chèques, ce sera encore avec les impôts des Français.
Emmanuel Christian vient de l'entendre sur fond de pétrole cher. Cette question des mobilités redevient brûlante. C'est elle qui avait lancé à l'automne dernier le mouvement des Gilets jaunes. On va parler des aides, des dispositifs mis en place par l'État ou les collectivités locales pour les salariés, pour les fonctionnaires. Mais d'abord, une question qui est peut-être la mère de toutes les autres. Être mobile aujourd'hui, est-ce que c'est un prérequis indispensable? Est-ce qu'il faut être mobile pour exister dans l'économie de 2019? Emmanuel Lechypre.
Ben, j'aurais presque envie de vous dire que ça a eu été, mais ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, la mobilité, c'est pas une fin en soi. La mobilité, c'est un moyen. Ce qui compte, c'est d'être présent quelque part. Présent pour travailler, présent pour faire des choses. Donc, à l'heure où vous vous posez la question, à cause de la contrainte climatique, de est-ce qu'il faut pas moins se déplacer, et où la révolution digitale vous permet à la fois une mobilité plus intelligente et de vous éviter la mobilité tout en vous permettant d'être présent avec les nouveaux moyens de communication, etc., bah, je pense que c'est une réflexion plus globale qu'il faut avoir effectivement sur ce que signifie aujourd'hui la présence qui ne nécessite plus forcément autant qu'avant la mobilité.
En incluant la réflexion sur le télétravail ?
Absolument, totalement, bien évidemment.
Alors, est-ce qu'il faut attendre des entreprises, justement, ou plus largement des collectivités locales ou de l'État, des mesures d'aide ou d'accompagnement pour ces mobilités? Qui finance? Christian Chavagneux.
Alors, il y a deux questions, je pense. Est-ce que c'est justifié de le faire, d'aider les gens? Et est-ce que ça va vraiment répondre aux gilets jaunes, en fait, hein? Donc, est-ce que c'est justifié? Oui, d'aider les gens, oui. Selon l'INSEE, 2 personnes sur 3 changent de commune pour aller travailler. Et c'est une proportion structurellement en hausse. 80% le font en voiture. Donc on voit qu'il y a un problème spécifiquement avec la voiture. Pour les communes peu denses et très peu denses, comme les appelle l'INSEE, on monte à 95% de gens qui, lorsqu'ils changent de commune, utilisent leur voiture. Et le nombre de kilomètres parcourus pour aller travailler, aussi en hausse. Donc là, pour répondre à Emmanuel, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent, et en plus qui se déplacent en voiture, et qui se déplacent de plus en plus loin. Donc l'idée qui va être débattue à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, c'est une prime mobilité de 400 € maximum, pas de 400 euros, de 400 € maximum par an, par salarié, défiscalisé, pas d'impôts, désocialisé, pas de cotisation sociale. Attention, une prime de mobilité durable, pas pour les gens qui vont tout seuls en voiture au travail. Pour aider ceux qui ont recours au vélo, c'est uniquement 2% des trajets domicile-travail aujourd'hui. Au covoiturage, c'est seulement 3%. C'est pas pour réduire, encore une fois, hein, le pouvoir, enfin pas pour augmenter le pouvoir d'achat des gens qui vont simplement en voiture. Juste ces dernières stats, selon l'INSEE, 58% des actifs qui travaillent à moins d'1 km de leur lieu de résidence y vont en voiture.
Emmanuel.
Alors, incontestablement, il y a un chômage de mobilité. Hein. Si vous regardez les difficultés qu'ont certaines personnes, notamment les plus jeunes et les plus fragiles, à se déplacer, on voit bien que c'est un frein majeur dans l'accès à l'emploi. Vous avez près d'un Français sur quatre qui déclare aujourd'hui avoir déjà renoncé à un travail ou à une formation faute de moyens pour se déplacer. Ça, c'est une enquête du laboratoire de la mobilité inclusive. Et chez les jeunes et chez les plus précaires, c'est des taux qui sont encore plus élevés. La tendance, c'est quoi? C'est qu'on voit bien que les Français, ils sont de moins en moins mobiles. Hein, si vous regardez l'étude de Pôle emploi, c'est-à-dire que vous avez chaque année, vous avez 10 Français par exemple sur 100 qui changent de logement, c'est moins qu'avant. Et dans le même temps, la distance domicile-travail augmente. Et sur le coût, pour le coût du attendez, alors là je suis paumé dans mes notes. J'avais le coût de transport, c'est intéressant, c'est une enquête d'Hello Work. Un Français sur quatre dépense plus de 150 euros par mois pour aller travailler, et là vous avez un compte, c'est un chiffre moyen, et derrière ce chiffre moyen vous avez évidemment un coût qui est très bas dans les grandes villes et dans les grandes métropoles, notamment parce que vous avez des transports en commun et qui sont pris en charge en grande partie déjà par les collectivités locales. Mais vous avez quand même dans les petites villes, là vous avez 8 habitants sur 10 qui prennent leur voiture, et vous avez 3 habitants sur 10 qui dépensent plus de 150 euros par mois, 1 sur 10 plus de 200 euros par mois. Donc oui, c'est un gros poste, effectivement, dans ces régions où il n'y a pas de solution énorme de mobilité collective.
C'est un gros poste, mais on s'aperçoit que plus les revenus sont élevés, plus le trajet domicile-travail est important. Et en fait, 3/4 des ingénieurs et des cadres d'entreprise sont ce qu'on appelle des navetteurs, c'est-à-dire des gens qui changent vraiment de commune et qui vont un peu loin, et c'est seulement 1/4 des indépendants ou des aides familiaux. Donc on voit en fait qu'on va, avec cette aide aussi, aider des gens qui sont déjà à des niveaux de revenus assez élevés. Alors moi, les stats que j'avais, c'est quand même 1/3 des gens qui déménagent, changent de département.
Ouais.
Aujourd'hui, comme il y a 30 ans, on est à 34, 31.
C'est 5% de moins, d'après
Pôle emploi. 3-4% de moins. Enfin, on n'est pas vraiment, c'est les baisseurs du trait. Par contre, il y a un rapport de l'IGF, parce que ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les gens sont bloqués et du coup ne trouvent pas de travail. C'est ça la question qu'on se pose. Et la seule source que j'ai trouvée, c'est un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui date de 2016, qui nous dit ça coûterait entre 1 point et 2,5 points de chômage. Mais du coup, ça fait une fourchette tellement large que statistiquement, c'est quand même pas très fiable.
Comment on détermine ce qu'est une distance acceptable entre son domicile et son travail? C'était un des critères, par exemple, pour définir ce qu'est une offre raisonnable d'emploi.
Pôle emploi a fait une étude qui est parue en avril, qui est vraiment très intéressante, qui nous dit un emploi proche du domicile est prioritaire simplement pour 22% des chômeurs. Ça veut dire que pour 78% des chômeurs, c'est pas prioritaire de trouver un boulot juste à côté. C'est-à-dire que les gens sont plutôt mobiles pour trouver de l'emploi. De la même façon, cette étude, en passant par plein de chemins différents, nous dit que 20% seulement des chômeurs disent qu'ils sont pas prêts à faire plus de 10 km ou à passer plus de 30 minutes dans les transports. Donc il y a vraiment pas grand monde. Pour 31% des chômeurs qui n'ont pas élargi leur recherche de demande d'emploi au-delà de leur commune, 8 sur 10 disent que c'est à cause du coût de transport. Là, on revient à ce que disait Emmanuel. Et si on leur dit, et si on vous donnait, si on vous mettait une petite navette pour y aller qui réduise les coûts, tout de suite, ça baisse de moitié, les gens sont prêts à y aller. Donc, je pense qu'il n'y a pas de facteur d'immobilité qui empêcherait les gens de retrouver du travail. C'est pas le facteur clé.
L'idée d'une prise en charge obligatoire par les employeurs, Emmanuel, défendue par certains syndicats, vous en pensez quoi?
C'est-à-dire, les sommes en jeu, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, alors déjà, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Vous avez quand même beaucoup de primes, de mobilité, etc., qui ont déjà été mises en place par les entreprises. Parce qu'il faut bien voir que c'est aussi dans l'intérêt des entreprises d'avoir des salariés qui ont des temps de transport acceptables. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Ça va être encore certainement une contrainte à gérer pour les entreprises. Et puis, encore une fois, les sommes en jeu, est-ce que ce sont des sommes 400 euros par an? Bon, moi, je suis toujours sensible à l'argument que quelques euros, ça compte. Mais franchement, est-ce que 400 euros, jusqu'à 400 euros, c'est vraiment les conditions maximales? Est-ce que ça peut vous inciter à changer de travail, à avoir un impact sur votre moyen de transport? Franchement, je sais pas. Moi, je suis pas convaincu de l'efficacité. Et encore une fois, je pense que ça ne résout pas le problème de fond, parce que on voit que toutes ces mesures, finalement, elles ont quel objectif? C'est d'essayer de compenser quelque part la douleur, entre guillemets, le coût de prendre sa voiture. Or, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens, ils prennent moins la voiture.
Justement, c'est la prime de mobilité, c'est une prime de mobilité durable.
Oui,
c'est pas pour réduire le coût.
Mais durable, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le covoiturage, pour moi, c'est pas la bonne solution.
Bah voilà.
ou le vélo. Et là, on voit que si que 2% seulement des trajets domicile-travail se font en vélo. Alors, le gouvernement, l'année dernière, a lancé un plan vélo, hein, 50 millions. Tous les experts ont dit 50 millions, c'est ridicule. Il faut beaucoup plus. Et on, évidemment, la réponse tout de suite, c'est ah, le vélo, c'est pour les bobos qui habitent à Paris ou dans les grandes villes. Pas du tout. Stat de l'INSEE que j'ai déjà donné ici, mais qui m'a tellement surprise que je la redonne. Sur les 2,7 millions de personnes qui vivent dans un espace rural et qui font une navette pour aller travailler, les deux tiers couvrent une distance médiane de 3,5 km. Donc moi, je pense que la prime, elle devrait être variable selon les territoires et devrait être variable selon l'alternative que vous proposez à la voiture.
Donc ce que vous nous dites, c'est que ces aides de transport, ce n'est pas forcément une capitulation écologique.
Non, tout à fait. Si on vraiment on encourage bon, le covoiturage à minima, mais surtout le vélo, parce qu'on s'aperçoit que le vélo, ce n'est pas qu'un truc de parisien ou d'urbain. Ça peut aussi aider dans le rural. Et honnêtement, s'il y a jusqu'à 400 euros par mois, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises vont dépenser 400 euros, mais jusqu'à 400 euros par mois, on peut inciter les gens à avoir non seulement un meilleur pouvoir d'achat, mais en plus aide à la transition écologique, au moins ce gouvernement aurait fait quelque chose pour la transition écologique.
Bah, objectivement, moi je trouve que dans la loi mobilité, il y a des choses qui sont quand même d'une portée nettement plus intéressante. Hein. Par exemple, il y a une mesure phare qui consiste à obliger à ce que tout le territoire soit couvert par des autorités organisatrices de transport. Aujourd'hui, il y a des pans entiers du territoire français.
Et Emmanuel qui demande des autorités administratives, c'est super. Mais non, c'est la dépense publique, Emmanuel. C'est inefficace,
tout ça. S'il y a un sujet sur lequel il y a une légitimité des collectivités locales
à
prendre la main, bah oui, mais il y a tellement de sujets dont elles s'occupent et dont elles ne devraient pas s'occuper. Mais, et là, pour le coup, pour les transports, c'est vrai qu'il y a des pans entiers du territoire sur lesquels aucune commune, aucune région, aucun département n'a pris la main pour s'occuper des transports. Et là, on voit bien, effectivement, moi j'ai été sensible dans toutes les enquêtes, alors on va arrêter de vous abreuver de chiffres parce que vous êtes déjà sans doute assommé, mais la réactivité potentielle des gens qui doivent se déplacer à la mise en place de solutions de transport en commun, moi j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement intéressant, et donc je trouve que dans la loi mobilité, il y a des aspects intéressants. Le problème, c'est qu'on bute tout sur les infrastructures aussi, etc. On bute toujours sur les mêmes choses qui sont comment on finance tout ça.
Alors, parmi ce que le gouvernement appelle les freins à l'emploi, il y a aussi, vous l'avez évoqué, les changements de domicile, le déménagement. Est-il légitime, selon vous, de demander à des salariés de déménager pour rester employable ? Est-ce un handicap si on ne peut pas le faire ?
Alors, il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a dans l'imaginaire collectif cette idée que les Français, ils sont pas mobiles, ils déménagent pas. Il y a les Américains qui se trimballent avec leur mobilhome sur la route et les Français attachés à la pierre qui déménagent pas. En fait, c'est pas tellement la réalité, hein. Effectivement, si vous prenez ce que nous dit le livre blanc de la mobilité géographique des salariés, effectivement, on est moins mobile qu'aux États-Unis ou dans les pays scandinaves, mais en revanche, les Français, ils sont plus mobiles que les Anglais, que les Belges, que les Néerlandais, les Allemands, les Italiens, ils sont deux fois plus mobiles même que les Espagnols. Donc il y a aussi cette volonté de bouger, mais c'est vrai qu'il y a moins d'incitations à bouger, notamment parce que quand vous regardez aujourd'hui qui a intérêt à déménager pour trouver un emploi, bah vous trouvez qu'il y a tout un tas de catégories sociales qui sont perdantes au déménagement. Et à part finalement les catégories sociales supérieures, les cadres, les gens bien formés, etc., on voit que le déménagement n'est pas payant, entre guillemets, en termes professionnels.
En fait, c'est plus les gens sont qualifiés et ont des hauts revenus, plus c'est facile. Enfin, plus on constate qu'ils déménagent, ça concerne moins les personnes seules qui ont plus de difficultés à déménager. Ça concerne plus les propriétaires que les locataires, le fait d'avoir des problèmes pour déménager. Mais encore une fois, moi, cette étude INSEE qui dit qu'un tiers des gens qui déménagent changent de département, c'est à peu près à 2-3% près la même chose qu'au début des années 90. Donc, il n'y a pas de diminution de ce point de vue-là de la mobilité.
Alors, il y a deux sujets français quand même, parce qu'on voit bien qu'effectivement, les études internationales vous montrent que plus vous avez un niveau de propriétaire élevé, plus le taux de chômage est élevé. Hein, il y a les travaux qui ont été faits aux États-Unis par Oswald, notamment, qui montre que 10% de hausse du taux de propriétaire, c'est 2% de chômeurs en plus. Et moi, il me semble qu'il y a deux problèmes en France qui sont liés au logement, vraiment pour le coup. C'est qu'on a des droits de mutation, c'est-à-dire les coûts de transaction quand vous vendez un logement et que vous en rachetez un autre, qui sont particulièrement élevés, beaucoup plus élevés que dans d'autres pays, et que c'est un frein à la mobilité. Rappelez-vous les gens d'Alstom qui voulaient pas quitter Belfort alors qu'on leur proposait un boulot à Strasbourg. Mais c'est tout simplement parce que si vous avez 50 familles à Belfort qui vendent leur maison, et la maison, elle vaut plus rien, donc vous pouvez pas déménager. Donc ça, c'est un vrai sujet. Rendre le changement de logement logement beaucoup plus facile. Et là, les deux populations les plus en difficulté, c'est les propriétaires qui n'ont pas fini de rembourser un crédit et ceux qui sont dans des logements sociaux.
Ouais, juste une petite étude qui a été publiée récemment et qui était intéressante parce qu'elle dit aux gens ok, vous avez un problème financier pour déménager, ouais. Dites-moi le montant dont vous avez besoin pour accepter de déménager. Et la grande majorité des gens répondaient aucun montant. C'est-à-dire que le frein au déménagement, c'est moins les questions de coûts, les questions professionnelles que tout ce qui est extra-professionnel.
J'aimerais vous entendre sur la question des fonctionnaires. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, nous a dit cette semaine que la déconcentration de certains service pouvait être source d'économie budgétaire. Donc, Bercy dans la Creuse, est-ce que ça vous semble réaliste, utile ? Est-ce qu'il faut rendre les fonctionnaires plus mobiles ?
Bah, en fait, c'est pas une idée nouvelle. Hein. Il y a eu beaucoup de ça a commencé dans les années 90. On se rappelle qu'Edith Cresson, en tant que Premier ministre, avait notamment le coup de l'ENA à Strasbourg. Bon, on voit en général, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a quelques tentatives réussies, hein, notamment dans des villes de province ou autour d'un service de l'État, même qui a une mission spécifique, vous arrivez à créer un petit pôle d'activité, de recherche, etc. Mais sinon, quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe ? C'est que d'abord, les fonctionnaires que vous voulez délocaliser, vous ne les délocalisez pas. Donc vous les caser à Paris quelque part, et puis vous embauchez en région d'autres fonctionnaires, ceux que vous voulez faire bouger, ça marche jamais. Les fonctionnaires de l'INSEE, à la délocalisation à Metz, c'est un fiasco considérable. Et en plus, ça vous coûte plus cher, parce que, vous faites pas d'économie de personnel, et vous avez des frais de bureaux supplémentaires.
En fait, 3% des fonctionnaires changent de bassin d'emploi, de région, en gros, au cours d'une année. L'ensemble de la population active, c'est 3,7%. Ouais. Donc, il n'y a pas une mobilité moindre des fonctionnaires. Au cours d'une année, 2,5% des fonctionnaires changent d'employeur. En France, c'est 25%. Donc là, on se dit quand même, il y a une grosse disparité. Sauf que vous enlevez ceux qui enchaînent les contrats courts, ceux qui exercent plusieurs métiers pour vivre, ceux qui reprennent un travail après le chômage, etc., ceux qui sont en retraite. Vous tombez pareil entre 2,1 et 2,6% des gens, selon qu'ils aient une formation ou pas. Non, ce que veut faire le gouvernement, c'est pas mettre des services publics en province, c'est avoir moins de frais immobiliers, c'est réduire le nombre de personnes au passage, parce que vous avez des personnes qui démissionnent, qui ne veulent pas aller justement en province. Et The Economist nous a donné il y a 10 jours, 15 jours, l'exemple du Danemark avec l'agence de protection de l'environnement qui va être transférée de Copenhague, donc la capitale, à Odense, qui est la troisième ville du pays. Les trois quarts des toxicologues ont dit qu'ils allaient démissionner. Donc vous perdez de la compétence si vous ne la retrouvez pas.
Merci à vous deux, Emmanuel et Christian. Merci pour ce bon débat du samedi matin. Quoi de mieux qu'un détour par les États-Unis pour continuer ce magazine Le Pays des grands espaces, de la mobilité et de la flexibilité érigé en dogme, et ça paye du moins si on en juge par les taux de croissance.
Welcome to a special edition of The Economy and the Future for American Prosperity.
And our growth number came in for the first quarter of the year, 3.2%, crushing expectations. A lot of surprised people, I wasn't surprised. And our policy can be summed up in three very simple words: jobs, jobs, jobs.
Donald Trump pavoise, la croissance économique est au plus haut, le chômage au plus bas. Bonjour Grégory Philips.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant permanent de France Inter aux États-Unis. Ça y est, la Great Job Machine américaine est relancée à plein régime.
Oui, vous vous souvenez peut-être que pendant la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump se présentait comme le plus grand créateur d'emplois, de jobs que Dieu ait jamais créé. Bon, ça y est, on y est. Un taux de chômage à 3,6%. On n'avait pas connu un taux aussi bas depuis le mois de décembre 1969. Il y a un demi-siècle, 263 000 créations d'emplois pour le seul mois d'avril. Les secteurs du bâtiment, de la santé et de l'aide sociale recrutent énormément. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que le salaire moyen des Américains augmente légèrement, de 6 cents par heure, et ça profite surtout aux ménages les plus modestes. Donc vous le voyez, sur le plan de l'emploi, quasiment tous les signaux sont au vert, même s'il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis environ 23 millions d'adultes inactifs échappent totalement aux statistiques, ils ne sont pas comptabilisés, mais bon, c'est bien le plein emploi. Et Trump, évidemment, peut mettre en avant que depuis son arrivée à la Maison Blanche, c'est-à-dire depuis un peu plus de 2 ans, eh bien plus de 5 millions d'emplois ont été créés dans le pays.
Ces succès économiques sont directement liés à la politique menée par Donald Trump depuis son élection ?
Alors, c'est une bonne question, parce que sur l'emploi, par exemple, la courbe du chômage ne cesse en vérité de baisser depuis la crise de 2009. On était à l'époque à plus de 10%, mais depuis la décrue est continue, au même rythme, sous Obama et sous Trump. En revanche, pour la croissance, il est incontestable que la réforme fiscale que Donald Trump avait fait adopter au début de son mandat a eu des effets positifs. Allègement de la fiscalité, relance de la consommation, tout ça accompagné d'une politique de dérégulation qui a offert aux entreprises, c'est vrai, un ballon d'oxygène. Donc oui, ça c'est l'effet Trump. Et évidemment, il ne manque pas de le dire ou de l'écrire presque chaque jour dans la perspective de la présidentielle de novembre 2020. Vous savez que le 45e président des États-Unis est déjà en campagne. On l'a encore vu en meeting mercredi dernier en Floride. Et la bonne santé de l'économie américaine est évidemment l'un des thèmes qu'il ne cesse de mettre en avant et qu'il ne va cesser de mettre en avant dans les prochains mois.
Merci à vous Grégory Philips, correspondant permanent de France Inter aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous depuis Washington. Dans trois jours, mardi, ouverture du Festival de Cannes, une vitrine pour le cinéma français qui pèse tout de même 0,8% de notre produit intérieur brut. Comment transformer les paillettes en bons chiffres pour l'économie française? C'est tout un art que maîtrise à la perfection un organisme qui s'appelle Unifrance. Son métier, c'est d'exporter partout où il le peut le cinéma français. Son président, Serge Toubiana, sera notre invité dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, puisqu'on parle économie et cinéma, nous nous sommes intéressés à l'enjeu que représentent les tournages de films pour les villes, grandes ou moyennes. Une exposition sur grand écran a des retombées économiques non négligeables pour les territoires qui s'y exposent.
C'est bon, en place, moteur.
Ok, allez, moteur demandé.
Ça tourne.
Action.
Ça tourne, action.
Sur une première de caméra, clap de fin.
Bonjour, Michel Gomez, délégué général de la mission cinéma de la mairie de Paris. Là, on est dans le 16e arrondissement de Paris, pas très loin de la Porte Dauphine. On est sur le tournage d'un long métrage de cinéma de la réalisatrice Sylvie Verred, film qui s'appelle Madame Claude, qui est un film d'époque, années 60. C'est très compliqué dès qu'on fait des films d'époque à Paris, puisque bien évidemment les voitures sont pas les mêmes. Il faut enlever toutes les voitures d'aujourd'hui pour mettre des voitures d'époque. Il faut parfois, lorsqu'on a des films de début de 1900, enlever du mobilier urbain. Paris, on pourrait dire, c'est parfois un studio, mais c'est pas un studio.
Vous dites parfois Paris, on dirait un studio de cinéma. Vous pouvez nous donner des chiffres sur le nombre de tournages ici à Paris?
On vient de faire le bilan de l'année 2018. L'année passée, on a eu à Paris plus de 5000 jours de tournage, ce qui fait qu'il y a en moyenne à Paris 20 films qui se tournent. Quand on dit des films, ce sont des films de cinéma, ce sont des fictions télé. On a eu au cours des 4 dernières années presque un doublement du nombre de jours de tournage accueillis à Paris. Ce doublement du jour de tournage est le produit de plein d'éléments qui s'alimentent les uns les autres. On a d'une part l'efficacité des mécanismes de crédit d'impôt qui ont été mis en place par l'État au niveau national et au niveau international. On a le développement des séries télé, qui est un facteur d'augmentation des tournages. On a l'arrivée des nouveaux acteurs de l'audiovisuel mondial, qui sont Netflix, Amazon. Donc tous ces éléments-là confondus fait qu'on a une augmentation du demande de jours de tournage à Paris.
On tourne de plus en plus de films en France, à Paris, mais pas seulement. Merci qui ? Merci le crédit d'impôt cinéma dont le taux a été porté à 30% pour le rendre plus attractif. L'objectif était de mieux positionner la France comme terre d'accueil pour cinéastes en quête de lieux de tournage. L'an dernier, 51 films ont bénéficié de cet avantage fiscal, plus du double que 3 ans auparavant. De nombreux territoires en profitent, à commencer par la capitale qui inspire toujours autant les réalisateurs. Tournage plein feu sur la France, c'est un reportage de Fabien Randrianarissoa.
Michel Gomez, nous sommes dans le 16e arrondissement, au milieu des voitures de collection, face à la Tour Eiffel. Le cinéma, c'est avant tout un enjeu d'image pour Paris?
Quand on parle des tournages, on a toujours à parler de l'image, mais avant de parler de l'image, il faut parler des retombées économiques. Les tournages, c'est de l'emploi, ce sont des prestataires qui travaillent, qui vont louer des camions, qui vont faire de la post-production. 80% des intermittents, des techniciens français habitent à Paris et en région parisienne. Donc des tournages, c'est beaucoup de travail pour eux. C'est en premier ça. Donc c'est de l'activité économique et de l'emploi.
Et sur de grosses productions avec jusqu'à 1000 collaborateurs, quel est l'impact d'un film sur l'hôtellerie par exemple?
Quand Mission Impossible est resté 2 mois à Paris, en 2 mois, ils ont dépensé en hôtellerie et en restauration 7 millions d'euros. Donc effectivement, on se rend bien compte qu'on a des retombées directes d'emplois cinématographiques, d'activités cinématographiques et un ensemble d'activités périphériques au cinéma qui sont l'hôtellerie, la restauration, les voitures avec chauffeur qui vont être alimentées par cette activité.
Vous savez que d'après les chiffres de Film France, de plus en plus de tournages ont lieu en province. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à exporter d'autres images de la France que la Tour Eiffel?
On a à Paris, je dirais, une iconographie très particulière que les étrangers peuvent aimer parce que ils veulent qu'on voit la Tour Eiffel, Notre-Dame, même si ces temps-ci, c'est un peu compliqué pour tourner autour. On a cette iconographie, on a cette force-là, mais je pense qu'il n'y a aucune opposition. La variété des décors français fait qu'on ne peut pas tout tourner à Paris, et heureusement, et donc il y a de la place pour tout le monde.
Entre 2003 et 2017, le nombre de tournages en Île-de-France est passé de 26 à 35%. Une décentralisation des productions accompagnée par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et sa présidente Frédéric Bredin. L'une des missions du CNC, c'est d'attirer les tournages, de faire en sorte qu'ils aient lieu en France. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu aussi important ?
En fait, le cinéma et l'audiovisuel représentent autant dans notre pays que l'industrie pharmaceutique ou l'industrie automobile. Presque 340 000 emplois, 0,8% du PIB, c'est considérable. Donc les tournages, ce sont en fait des événements qui créent des emplois sur tout le territoire, dans toutes les régions. Chaque tournage est une PME. Au-delà du tournage, le tourisme, ça se développe au travers une image de la région. 70% des touristes qui viennent en France viennent parce qu'ils ont vu de belles images de la France dans une série ou dans un film.
Pour faire en sorte que ces tournages aient lieu en France, il y a un des outils qui est le crédit d'impôt. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Il y en a plusieurs types.
Oui, il y a 3 crédits d'impôt qui ont été créés dans les années 2000, il y a un certain temps, pour essayer de maintenir les tournages en France, pour les tournages français, et d'attirer des tournages étrangers. Et ces crédits d'impôt ont eu un effet important, mais il y a une très forte compétition fiscale internationale, notamment avec les États-Unis, qui ont très vite compris l'importance des investissements dans le cinéma et dans l'audiovisuel, avec le Canada et aussi en Europe. Du coup, en 2015, et ça s'est appliqué pour la première fois en 2016, le Parlement a décidé de considérablement revaloriser les crédits d'impôt français, de telle manière à faire de la France un pays très attractif. Et les résultats ont été spectaculaires. Plus de 500 millions de dépenses supplémentaires sur notre pays. Et c'est de très nombreux tournages qui sont restés en France ou qui sont venus en France grâce à ces mesures. Ça représente presque 15 000 emplois supplémentaires sur une année.
Oui, parce qu'au-delà des tournages étrangers, l'un des enjeux, c'était d'éviter la délocalisation de tournages français qui pouvaient se faire en Europe de l'Est.
Oui, c'est sûr, en Belgique, puisque le système fiscal est très attractif, et en Europe de l'Est, où les salaires sont parfois plus bas qu'en France. Donc l'idée, c'était de faire baisser ce qu'on appelle le taux de délocalisation des tournages. C'est un terme très technique qui veut dire simplement qu'il faut que les tournages français restent en France. Et ce taux de délocalisation a été diminué par 2. Donc ça a été très, très efficace tout de suite.
Une hausse du crédit d'impôt qui a notamment permis de rapatrier le tournage du film « Au revoir là-haut » réalisé par Albert Dupontel, 2 millions d'entrées au box-office et initialement prévu en Hongrie. Les réalisateurs étrangers regardent eux aussi de plus en plus vers notre pays. Le prochain film de Wes Anderson, « The French Dispatch » vient de détrôner « Mission Impossible » avec 27 millions d'euros de dépenses en 4 mois de tournage à Angoulême. C'est près d'un quart du budget de la ville.
Bonjour, Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême. On va marcher dans les pas de Wes Anderson. Alors, il y a beaucoup d'acteurs locaux qui ont contribué à ce film. Tout un tas de gens qui fréquentent Angoulême, soit qui y habitent, qui ont été castés et retenus et qui ont accepté de s'inscrire dans cette belle aventure. Même Wes Anderson a casté comme ça, en direct, des agents de la ville. Alors, au début, ils pensaient qu'ils n'étaient pas sérieux. Puis, quand ils ont compris que... Si, il insistait, ils étaient extrêmement fiers. On a des acteurs économiques, des commerçants, notamment, qui ont été castés comme ça et qui ont joué le jeu.
Vous parlez des commerçants. Justement, sur les 8 millions d'euros dépensés par la production à Angoulême, quels secteurs en ont profité finalement ?
Tout ce qui était meublé, de tourisme, hôtellerie, restauration, location aussi de véhicules, notamment de véhicules utilitaires, qui ont été appelés à œuvrer et à participer à cette belle aventure.
Une belle aventure et un ticket pour faire voyager l'image d'Angoulême et même de tout un pays sur les écrans du monde entier. En 2018, le cinéma français a tiré en salle 40 millions de spectateurs à l'étranger. Danielle Alsner est la présidente de l'Association des exportateurs de films.
Le cinéma français est un des cinémas qui s'exporte le mieux. Donc après les films en langue anglaise, etc., on est la deuxième puissance mondiale en exportation. Alors nous, on a un chiffre d'affaires global de vente sur le cinéma français qui tourne aux alentours de 200 millions d'euros par an, qui est un chiffre assez stable. le box-office, c'est-à-dire que les entrées que font les films à l'étranger varient forcément un peu de l'offre de l'année, c'est-à-dire que traditionnellement, quand on a un film dessin animé très fort ou un film tourné, là pour le coup en langue anglaise, il s'exporte un peu plus et attire un peu plus de monde, mais on a un socle très stable, hein. En gros, 2300 films par an qui sortent sur les écrans à l'étranger. Ça fait beaucoup d'écrans qui sont occupés par le cinéma français.
Est-ce qu'il y a des films français comme ça qui connaissent une seconde vie à l'étranger ensuite ?
Un succès en France forcément porte un succès à l'étranger. C'est-à-dire que ce que les Français aiment voir, hein, souvent l'étranger aime aussi le regarder. Donc là, si on a « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», etc., c'est typiquement des films qui marchent bien en France et qui marche aussi à l'étranger. Il y a aussi, mais c'est plus rare, hein, des films qui sont effectivement des films qui marchent davantage à l'étranger. Mais en général, il y a quand même une corrélation avec le succès national et ensuite le succès à l'international.
Tournage plein feu sur la France, c'était un reportage de Fabien Randrianarisoa.
8 sur 1, première, 2 caméras, clap de fin.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour Serge Toubiana.
Bonjour.
Vous présidez Unifrance. Unifrance, rappelons-le, c'est l'organisme qui est chargé de la promotion du cinéma français dans le monde. Le cinéma français s'exporte, 237 millions d'euros de recettes l'année dernière, 26 millions d'entrées. C'est beaucoup, mais c'est en forte baisse par rapport à 2017, moins 58%. Comment ça s'explique ?
Votre chiffre de 26 millions, il n'est pas exact, c'est 40.
Ah, je l'ai pris chez vous.
Alors, non, mais 26 millions, j'imagine que ce sont les films français de langue française. Il y a des films français en langue anglaise qui marchent très bien aussi à l'étranger. Beaucoup de cinéastes français font des films en langue anglaise et beaucoup de cinéastes français font des coproductions avec des pays étrangers. Donc ça, c'est le socle, comme disait Daniela Elsner. Il y a un socle autour de 40 millions de spectateurs à l'étranger.
Il y a quand même une baisse.
Alors la baisse, elle s'explique par plusieurs phénomènes. D'abord, l'année antérieure, on était à plus de 80 millions d'entrées. Mais sur ces 80 millions d'entrées, 50 étaient faits par un seul film, Valérian, le film de Luc Besson. Donc, une année avec un film de Luc Besson et une année sans film de Luc Besson, ça crée un différentiel considérable.
C'est vraiment décisif.
Décisif. Donc cette année, 2018, il n'y avait pas de film de EuropaCorp et de Luc Besson. Et il faut s'habituer à l'idée qu'il n'y en ait pas tous les ans ou qu'il n'y en ait plus. Ça veut dire une chose, c'est que le cinéma français doit compter sur ses propres forces, ses réalisateurs, ses acteurs, ses actrices, ses exportateurs. Daniela Elsner préside l'ADF, qui est l'association des exportateurs, ses producteurs bien sûr. Et l'enjeu c'est de redonner au cinéma français une vigueur, une originalité, une intensité qu'il n'a peut-être pas assez film par film, que ce soit les comédies, les films de genre, le cinéma d'animation qui se porte très bien, le documentaire qui se vend beaucoup aussi. Donc on a des atouts considérables.
Pourquoi il faudrait s'habituer à ce qu'on ait peut-être plus de films de Luc Besson ?
Parce que EuropaCorp est dans une situation financière très compliquée. Très compliquée. J'en sais pas beaucoup plus, mais on sait que EuropaCorp est en difficulté. Que sans doute le film Valérian, qui a moins marché que prévu, mais qui a coûté très cher. J'ose prononcer un chiffre, mais je crois que c'est autour de 170 millions d'euros.
Oui.
Cofinancé avec les Chinois, avec des majors étrangères, a bien marché à l'étranger, mais pas assez. Donc la situation d'EuropaCorp est difficile. Moi, j'espère qu'ils vont se rétablir, mais pour l'instant, il faut miser sur une absence de films dans les 3-4 prochaines années de Luc Besson. Il y a un film qui est préparé, qui est fait, Anna, qui va être distribué par Pathé en 2020, je crois. Donc voilà, la situation, elle est celle-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec 40 millions de spectateurs à l'étranger, le cinéma français, il est sur son socle, sa force, je dirais, qui ne bouge pas sur les 10 dernières années. C'est à peu près l'étiage auquel se situe notre cinéma. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on est dans un monde extrêmement concurrentiel et qui évolue sous la pression des plateformes, sous la pression d'une offre multi... Général.
Alors on va en parler notamment effectivement de Netflix.
Oui, et puis Netflix et d'autres plateformes qui existent ou qui vont se lancer sur le marché. On parle de Disney qui va être une plateforme extrêmement fournie en films, avec le catalogue magnifique. Warner aussi et d'autres, Amazon, et on peut citer beaucoup de projets comme ça. Ce qui fait que le cinéma est une industrie artisanale de prototypes, se trouve aussi bien en France qu'à l'étranger. Le cinéma américain indépendant est en une situation beaucoup plus difficile que le nôtre, parce qu'il se heurte à une industrie qui maintenant se focalise sur les blockbusters et sur les films. Vous avez cité tout à l'heure, en dehors du micro, le dernier Avatar, Avenger, qui est un énorme succès planétaire, contre quoi on ne peut rien. On est des artisans en France.
Alors l'actualité, c'est cette 72e édition du Festival de Cannes, qui va donc commencer mardi prochain. Ce n'est plus un rendez-vous très artisanal, le Festival de Cannes. C'est un rendez-vous important pour vous ?
Bien sûr, d'abord parce que c'est le plus grand festival du monde, c'est la plus belle vitrine du cinéma au monde, c'est l'événement le plus... Oui, c'est le festival le plus important au monde, il y en a d'autres, mais c'est le premier.
Pour l'export, comment ça se passe concrètement ? C'est un lieu de rencontre entre les acheteurs, les différents acteurs de la filière ?
Il y a un marché à Cannes, il n'y en a pas à Venise par exemple. Il y a un marché à Berlin, il y a un marché à Cannes. Il y a un marché, c'est-à-dire qu'il y a, en plus de la compétition, des sélections, La Quinzaine, Un Certain Regard, La Semaine de la Critique, évidemment la compétition officielle. Beaucoup d'acheteurs du monde entier viennent à Cannes et voient les films dans des petites salles et achètent, ou n'achètent pas, mais font leur marché. Donc le cinéma français, sur son propre territoire, à Cannes, évidemment est en position, non pas de force, mais en position de se mettre sous ses plus...
C'est
plus beaux atours, oui, comme vous dites, pour essayer de séduire des acheteurs internationaux. Donc, la présence des films en compétition officielle est très importante. Il y a quand même plusieurs films français en compétition officielle. Des cinéastes connus et reconnus, Abdelatif Kechiche, Arnaud Desplechin, mais aussi de jeunes cinéastes, de jeunes réalisateurs et surtout de réalisatrices. Je dis surtout parce qu'il y a, il y a de plus en plus de femmes qui réalisent des films et leurs films sont prisé à l'étranger.
Ce sera d'ailleurs un festival très féminin cette année.
Plus féminin que d'habitude. Et ça, c'est un point très important. Et il faut le souligner et surtout s'en féliciter.
Vous parliez des réalisateurs. Si on parle des acteurs et des actrices, lesquels font le mieux rayonner la France aujourd'hui dans le monde ?
Les acteurs, les actrices. Partout où on va, on nous cite encore, si vous voulez, la génération des grandes actrices, des grands acteurs qui ont fait rayonner le cinéma depuis... plusieurs décennies. Alain Delon est très aimé au Japon, Sophie Marceau en Chine est une star, Catherine Deneuve est une icône, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, bien sûr, qui tourne énormément. D'ailleurs, elle sera présente à Cannes avec un film tourné par un Américain, Ira Sachs. Vincent Cassel est connu, il y a beaucoup d'acteurs qui sont connus. Le problème, notre enjeu à Unifrance, c'est de faire connaître la nouvelle génération, aussi bien de réalisateurs et de réalisatrices, que de jeunes acteurs et jeunes actrices. Donc chaque fois qu'on voyage, à Rome récemment, à New York, bientôt à Yokohama au Japon, on essaye de faire voyager des films de jeunes ou de plus jeunes cinéastes et d'embarquer avec nous des jeunes acteurs et actrices. Parce que l'enjeu, c'est de faire exister un cinéma divers, dont l'image est vraiment dynamique, je dirais contemporaine, qui traite les sujets... avec une grande liberté. C'est notre atout.
Vous évoquiez Catherine Deneuve qui estimait il y a quelques semaines dans une interview qu'on tourne trop de films en France. Vous êtes d'accord ?
Non, je ne suis pas d'accord, mais je comprends ce qu'elle dit. Je veux dire par là qu'on tourne, on réalise à peu près près de 300 films par an en France. Beaucoup de ces films ont une vie dans les salles très limitée. Très limitée. Ce que j'entends dans le propos de Catherine Deneuve, c'est parce qu'elle elle parle en tant qu'actrice. J'imagine qu'elle reçoit beaucoup de scénarios à lire, qu'on lui fait des propositions, et j'ai d'autres actrices qui me disent la même chose, et que souvent ces scénarios sont pas au point, quoi, sont pas travaillés, sont pas assez travaillés. Vous savez qu'on met très peu d'argent dans l'écriture en France. C'est un des soucis. Je crois qu'on est en dessous de 5% d'un budget d'un film pour l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu considérable par rapport au cinéma américain et à d'autres cinémas. Il faut renforcer le travail d'écriture. Il faut donner plus de temps aux scénaristes et aux auteurs. Il faut que les scénarios arrivent à un point d'aboutissement plus ambitieux, plus écrit, plus travaillé, pour que les films aient une chance d'exister. C'est comme ça que j'interprète le propos de Catherine Deneuve. Et si c'est ça, si je ne me trompe pas, je suis pleinement d'accord avec elle. Il faut que les films soient davantage des prototypes qui font événement. à tout, quel que soit le sujet abordé, quel que soit le traitement, quel que soit le genre abordé, il faut que les films soient... Parce que aujourd'hui, un jeune spectateur, une jeune spectatrice à Paris ou dans les villes, en province, en région, pour aller voir un film, pour quitter sa tablette où on reçoit tout, les séries, Netflix et autres, pour aller voir un film, il faut que ce film soit vraiment attractif, qu'il ait quelque chose à vous dire, qu'il ait du sens pour chacun d'entre nous. Voyez. Et donc, il faut travailler davantage, il faut investir davantage sur l'écriture. Il faut vraiment que le cinéma français regagne cette vigueur, cette intensité, cette originalité qui est sa marque de fabrique. Voilà.
Merci beaucoup Serge Toubiana, président d'Unifrance. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et puisqu'on parle cinéma, rendez-vous dans un petit quart d'heure pour On aura tout vu avec Laurent Delmas et Christine Masson. Cannes, vu d'ailleurs, quel rôle joue le festival dans le cinéma mondial? Voilà, on va donc prolonger le débat. Rendez-vous tout à l'heure sur France Inter. Ma vie au boulot avec vous, Sandrine Foulon. Comment peut-on inciter un employeur à négocier un accord de qualité de vie au travail qui parle vraiment du contenu du travail et qui ne soit pas simplement cosmétique? C'est la question de Bruno qui travaille dans une mutuelle à Rennes.
Oui, les accords de qualité de vie au travail qui sont signés depuis 6 ans entre les directions et les syndicats brassent large. Il y a du mieux sur les questions de société, comme la possibilité de déconnecter des mails professionnels, de mieux équilibrer les temps de vie. Ces accords abordent le télétravail, l'égalité professionnelle, les seniors, le handicap. C'est ce que nous dit l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui a fait un bilan des accords conclus sur un an l'été dernier. Mais comme vous l'écriviez dans votre question, Bruno, les baby-foot et les Swiss Balls ne font pas tout. L'ANACT déplore que ces accords de qualité de vie au travail ne traitent pas suffisamment de la santé. L'organisation et le contenu du travail sont oubliés. Les managers n'ont pas la possibilité d'agir pour mieux réguler la charge de travail de leurs équipes. Le lien entre performance et conditions de travail est un angle mort de ces accords. Les espaces de discussion sur le travail vivant, le vrai, n'existent pas. Ce sont pourtant les conditions indispensables à une vraie qualité de vie au boulot. Mais ça, Bruno, le code du travail ne l'impose pas aux entreprises.
Vous allez désespérer, Bruno. Sur quel ressort les salariés et leurs représentants peuvent-ils quand même jouer pour améliorer la situation?
La peur des conséquences, Fabien, vous avez rappelé l'épisode douloureux de France Télécom dans votre billet. Il a fallu ces drames pour que l'entreprise en finisse avec les mobilités forcées ou réintroduise du management de proximité. On sait pourtant, depuis le rapport Golag de 2011, qu'il existe des grands facteurs de risques psychosociaux. Le manque d'autonomie, les cadences trop fortes, l'obligation de devoir maîtriser ses émotions ou de faire des choses qu'on réprouve, la peur de perdre son travail ou encore un mauvais climat social sont des leviers sur lesquels une entreprise peut agir si elle veut faire de la prévention la seule qui vaille avant qu'il ne soit trop tard. Le magazine Santé et Travail rappelle que 20 000 accidents du travail sur une année sont dus à de la souffrance psychique. La peur des juges aussi peut jouer un rôle. Aujourd'hui, un employeur est responsable s'il n'a pas mis en place une politique de prévention, mais la Cour de cassation pourrait aller plus loin. La Chambre sociale a annoncé qu'elle serait plus vigilante sur un des principes de prévention issus du droit communautaire qui repose sur cette idée forte. L'entreprise doit adapter le travail à l'homme et non l'inverse.
Merci Sandrine, ma vie au boulot. Et c'est la fin de votre magazine Écho. Rendez-vous samedi prochain dès 9h10 sur cette même chaîne.